Vous écoutez Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment de la saga de dystopie fantastique Absolue, parue chez Big Bang, numéro 1 des ventes jeunesse à sa sortie. Les mots raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition et qui vous aide à aller des premières idées à la publication de votre roman. C'est aussi une académie en ligne avec des masterclass et des ateliers en live chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis extrêmement ravie d'accueillir avec moi Marie Vareille, donc autrice déjà de plus de 10 romans. Là, on est sur la sortie de son 11e roman à l'heure où je vous parle, ou plutôt à l'heure où vous m'écoutez, puisque nous, on tourne cet épisode plusieurs mois à l'avance pour que ça se cale dans le planning de Marie. Donc, notamment en jeunesse, on a Elia la passeuse d'âme, on a aussi le syndrome spaghetti que j'ai lu et que j'avais beaucoup apprécié, mais aussi des romans adultes. Et donc là, par exemple, on va certainement parler de son dernier roman, La Dernière Allumette, et je suis vraiment plus qu'honorée que Marie ait accepté de venir avec nous sur le podcast. Bonjour Marie.
Bonjour Margot, merci de m'accueillir.
Le plaisir est partagé. Dis-moi, je t'ai présenté de façon très succincte, est-ce que tu pourrais, toi, de ton côté, te présenter un petit peu plus pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore sur ce podcast?
Oui, alors bah, je m'appelle Marie Vareille, j'ai 38 ans. Bientôt 39 d'ailleurs maintenant. J'habite aux Pays-Bas et je suis autrice. J'ai été publiée pour la première fois en 2014. Voilà, je suis aussi maman de deux petites filles et je suis d'origine bourguignonne.
Ok.
J'ai pas mal d'attaches dans le sud-ouest aussi. Donc voilà.
Donc tu es une autrice expatriée aujourd'hui.
Exactement.
Dis-moi, quand j'interviewe quelqu'un, je fouille tout ce qui est possible de fouiller sur Internet, et j'aime bien ça. Et j'ai notamment vu que tu racontes que tu es tombée dans l'amour des livres en Sevin, comme Obélix dans la marmite de potions magiques, donc tu le dis toi-même, et que pour toi, c'était une évidence, plus tard, tu écrirais des livres. Est-ce que, du coup, cette vocation, elle t'a suivi toute la fin de ton enfance et ton adolescence, ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, bah voilà, je vais finalement faire autre chose, je sais que t'as fait des études dans le marketing. Est-ce que c'était un rêve que finalement t'avais un peu abandonné au fur et à mesure des années, ou au contraire, c'était toujours quelque chose dans le coin de ta tête où tu t'es dit, non, ça ne change pas, je vais bien faire ça de ma vie?
Je me souviens pas d'avoir dit ça. Enfin, je me souviens de la marmite de potions magiques, mais que c'était une évidence que j'allais devenir écrivaine. C'est résumé, on va dire, un peu les événements. Ce qui était une évidence, qui a été une évidence tout de suite, c'est que les livres, c'était mon truc. C'est que j'adorais lire, j'adorais les histoires. Ça a été, et ça m'a poursuivi toute mon enfance, mon adolescence, l'âge adulte. La lecture, l'amour des livres, ça a toujours été ma passion numéro un. Dire que c'était une évidence que j'allais devenir écrivaine, je pense pas, parce que en CE1, donc j'avais 7 ans, peut-être que j'avais envie, que voilà, comme on a envie d'être actrice, chanteuse, je sais pas, des métiers qui sont un peu mystérieux comme ça et qui font rêver sur le papier, mais en réalité j'avais aucune idée de comment on devenait écrivain, j'avais aucune idée pourquoi il y avait des livres qui étaient publiés, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un livre un jour en librairie. Ça, c'était très nébuleux, c'était très très mystérieux. Donc je crois pas que c'était une évidence que je voulais être écrivain. Je pense que c'était une évidence que j'aimais les livres, j'aimais écrire très spontanément. C'est vrai que j'ai commencé à écrire très jeune. J'écrivais des poèmes, des débuts d'histoire, j'avais un journal. Très naturellement, en fait, je me suis tournée vers l'écriture. Sans doute parce que j'étais très timide petite, alors je pense que c'était peut-être aussi un moyen finalement d'exprimer les choses clairement pour moi qui n'arrivais pas forcément à les exprimer à l'oral. Donc je sais pas, c'était un espèce de rêve, mais en réalité c'était très théorique. Et d'ailleurs j'ai pas, comme tu l'as dit, j'ai pas fait d'études là-dedans. Je me souviens que j'allais toutes les semaines dans la même bibliothèque municipale emprunter des livres. Et quand tu passais, alors à l'époque, c'était encore les premières S, ES et L. Donc il y avait L littéraire, ES éco-sciences sociales et S pour les scientifiques, les matheux. Et je me souviens que la bibliothécaire, quand elle a appris que j'étais pas passée en L, elle était un peu tombée de l'armoire. Elle m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas L, toi? Tu passes ta vie à lire. Et alors de manière assez amusante, l'idée m'avait pas vraiment traversé l'esprit parce que c'est vrai que chez moi, oui, elle, c'était pas vraiment une option. Et puis finalement, tout ce qui était littéraire, et encore plus tout ce qui était artistique, c'était pas une option quand j'étais petite. C'était vraiment, faut, voilà, les gens bons, ils sont bons en maths, donc il faut plutôt se concentrer sur des matières scientifiques, sur du concret. Voilà, je me souviens, mes parents, ils disaient, tu fais une grande école et puis après tu feras ce que tu veux, quoi. Donc j'étais pas rebelle, hein. Donc j'ai fait un peu ce qu'on m'a dit de faire. J'étais assez bonne élève, donc j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé en marketing. Et à côté, il y a toujours eu les livres, la lecture, l'écriture. Mais comme un hobby au début, et puis petit à petit, en fait, ça a pris tellement de place. Il y a eu le fait que ça prenne de la place, et aussi le fait que ces études que j'ai faites, finalement, me plaisaient pas tant que ça. Et je m'en rendais bien compte que, bon, ça me passionnait pas. C'était, voilà, comme je dis, j'étais pas rebelle, donc je faisais sérieusement les choses. J'ai passé mes diplômes, mais par rapport à ce que m'apportaient les livres, bah finalement, ça me semblait beaucoup moins enrichissant. Et donc j'écrivais, et il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape où je me suis dit, j'ai plein de débuts de romans, j'ai commencé plein de romans, mais maintenant il faut que j'écrive un roman en entier. Et là, c'est une histoire que je raconte souvent, mais j'ai vraiment eu un déclic, parce que je sais pas combien de... Ça a vraiment, je sais pas, je pense de mes 15 à mes 22 ans, tous les 3-4 mois, je commençais un roman. Et puis je le terminais jamais. Alors j'écrivais 20 pages, 50 pages, parfois j'allais jusqu'à 100 pages quand même. Et puis là j'avais un mur, je savais plus quoi écrire, je savais plus quoi faire, et j'abandonnais. J'avais une meilleure idée, je me disais non non mais en fait je vais plutôt écrire ça. Ce qui est une très très mauvaise stratégie, parce qu'en fait il y a toujours des moments où il est bloqué, il y a toujours un moment où il y a un mur. Et ce qu'il faut apprendre, et je pense que c'est ça la différence entre les gens qui veulent écrire et les gens qui arrivent réellement à la fin d'un roman, c'est qu'ils apprennent à franchir ces murs-là, qui sont inévitables à mon sens dans le processus d'écriture. Et en fait, un jour, je me suis dit, je vais aller au bout d'un roman, j'irai au bout quoi qu'il arrive, même s'il est nul, même si personne ne le lit jamais, mais ça fait trop longtemps que j'essaye de faire ce truc. Il faut que je le fasse. Et en fait, ce qui a été un déclic pour moi, c'est que mon papa m'a offert un livre à Noël. Et ce livre, c'était un livre en anglais qui s'appelait Time to Write, donc le temps d'écrire. Et c'était un livre américain qui est pas traduit, je pense toujours pas en français, parce que ça date un peu, et qui était une petite méthode d'écriture à l'américaine. Voilà, aux États-Unis, on étudie beaucoup le creative writing. En France, on commence, mais on est quand même moins ouvert au fait que la littérature, ça peut s'apprendre. Et voilà, c'était un livre de méthode d'écriture qui donnait plein de petits conseils. Et j'ai reçu ce livre à Noël. Et ma bonne résolution du 1er janvier suivant, ça a été vraiment d'écrire un livre jusqu'au bout. Et je pense que c'est pas tant ce livre-là qui a été magique, en fait. Je pense que ce qui a vraiment m'a donné un coup de boost, de confiance en moi, c'est le fait que quelqu'un en qui j'avais confiance, et qui lui-même n'était pas du tout, encore une fois, un artiste ou un... mais offert ce livre, parce que quelque part, ça voulait dire que bah, finalement, toutes ces années à parler de lire, à écrire et tout, malgré le côté très dans ma famille, tout le monde travaillait en entreprise, tout le monde... Bah, on croyait un peu en moi, quoi. Et donc, c'est cette année-là, j'ai écrit. Je me suis dit, j'écris 1 heure par jour tous les jours, et je suis arrivée au bout d'un premier roman. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai eu envie d'être publiée, je crois. C'était plus... Là, j'ai commencé à me poser la question de me dire, bah, ok, j'écris, mais derrière, est-ce que ce livre, il sera un jour en librairie? Alors, ce livre n'a jamais été en librairie, hein, d'ailleurs, parce qu'il a été refusé par toutes les maisons d'édition auxquelles je l'ai envoyé. Mais je me suis renseignée. J'ai commencé à regarder, à me dire, mais c'est qui ces gens qui publient des livres, qui ont des gens qui les connaissent pas, qui lisent leurs livres, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'était un milieu qui était très très loin du mien, le milieu de l'édition. Vraiment, je connaissais personne, je connaissais aucun auteur. Les premiers auteurs en fait que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés en tant qu'autrice quand j'ai commencé à faire des festivals, des salons du livre. Mais avant, je connaissais personne. En plus, tout ça, c'était vers 2010-2011. Donc, il n'y avait pas encore toute cette communauté sur les réseaux sociaux. C'était le tout début de l'auto-édition. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des communautés d'auteurs. Il y a des mots. Enfin, moi-même, je reçois plein de messages d'aspirants écrivains qui me posent des questions. Il y a des moyens de mieux comprendre, je pense, ce milieu-là. Mais à l'époque, c'était vraiment, enfin, il fallait aller en librairie, regarder quelle maison d'édition publiait quoi, prendre des notes. Je me souviens, j'allais à la Fnac, je notais, ah ben voilà, telle maison elle a publié ça, peut-être qu'elle peut être intéressée par ce que moi je vais publier. Et ensuite, j'envoyais mes manuscrits imprimés en papier par la poste. J'allais chez l'imprimeur, je les faisais relier avec un boudin. Je payais évidemment hein, tous les frais d'impression, d'expédition. Et c'est donc ça a été assez pro. Voilà, je me suis un peu tendue, mais pour expliquer que c'était pas une évidence que j'allais être écrivaine ou que je voulais être écrivaine. C'était une évidence que j'avais un truc avec les livres, avec l'écriture, qui était au-delà d'un simple hobby. Je me souviens, hein, je rentrais en courant le midi chez moi pour avoir plus de temps pour lire quand j'étais petite. Je courais sur le trajet parce que j'avais pas envie. Il fallait que je reprenne mon livre où je l'avais laissé le matin. Et voilà, et il y a toujours eu cette place immense pour les livres, la littérature, mais c'était pas une évidence parce que bah c'était tellement pas dans mon champ des possibles, c'était tellement étranger que voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps de comprendre que ce serait bien d'essayer parce que c'est quand même quelque chose qui me faisait vraiment rêver quoi. Mais j'ai commencé à travailler en marketing et j'ai écrit en parallèle d'un autre travail à plein temps pendant plusieurs années. J'écrivais le matin, ça a été très progressif finalement.
Et pour le coup, tu as bien essayé puisque tu commençais à collectionner les lettres de refus dans le placard en te disant que c'était pas très grave d'ailleurs, parce que comme tu dis, je te dis que j'ai fouillé. Et comme tu disais à un moment donné sous un poste, un rêve, si on le réussit du premier coup, c'est qu'on n'a pas visé assez haut. Et donc dans ta tête, c'était tout à fait normal finalement d'avoir des lettres de refus parce que c'était quelque chose de complexe et que tu rêvais. Et le 19 avril 2013, tu allais encore un peu plus loin, puisque tu as démissionné pour partir seule à la campagne pour écrire. Comment tu as pris cette décision justement, où tu disais, bah voilà, c'était pas dans ton champ des possibles, à je lâche tout ce qui est ma vie aujourd'hui, tout ce qui est ma sécurité, et c'est tout sauf facile, pour aller vivre un an hors du temps, pour aller réaliser mon rêve?
Alors bah là c'est pareil, c'est un peu le mythe. Il y a beaucoup de gens, même des proches, qui ont un peu oublié et qui ont cette image de moi qui ai claqué la porte un jour de l'entreprise où je travaillais en disant allez, je vous laisse, moi je vais devenir saltimbanque. En fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce que comme tu l'as dit, je suis partie un an, donc j'ai pas démissionné, j'ai pris une année sabbatique. J'avais déjà écrit deux romans. À ce moment-là, j'avais écrit le premier roman dont je t'ai parlé un peu plus tôt, ce fameux premier roman que j'avais dit que j'écrirais jusqu'au bout, même s'il était nul et même si personne ne lirait jamais. Et alors en fait, il était nul, personne l'a jamais lu, mais ça m'avait mis un pied à l'étrier. Et donc j'avais écrit un deuxième roman. J'avais envie d'être édité, j'avais envie d'écrire d'autres choses. Et je me suis dit, bah, peut-être que je peux justement prendre un an pour essayer de me consacrer à 100% à ça, parce que j'avais quand même conscience que c'était difficile. C'est pour ça aussi que les lettres de refus, toutes ces lettres de refus que j'ai reçues, m'ont pas surprise plus que ça. Pour moi, ça faisait un peu partie du processus de devoir bah, galérer en fait pour être publié, oui, pour arriver, voilà, j'avais quand même, je lisais tout ce que je pouvais lire sur le sujet. Et ce que je lisais, c'était, bah, c'est un milieu très fermé, très élitiste. Si tu connais personne, c'est super compliqué. Chez Albin Michel, ils reçoivent 6 000 manuscrits tous les ans. Voilà, tout ça, c'était des infos qui me passaient devant. Et donc, j'étais pas surprise de pas réussir du premier coup. Pour moi, c'était un peu le processus normal. Mais je me suis dit aussi, bon, bah, va falloir travailler plus. Va falloir travailler plus les livres. Va falloir plus contacter différemment les éditeurs. Va falloir rentrer par la fenêtre, puisque par la porte, ça n'a pas marché. Et j'ai pris cette année sabbatique, mais là c'est alors il y avait deux choses. Déjà, j'habitais à Paris, et quand j'ai pris l'année sabbatique, j'ai déménagé. Mes parents m'ont prêté pendant un an leur maison de campagne dans le sud-ouest, donc j'avais plus mon loyer, j'avais pas même de frais d'électricité, d'internet, etc., puisque bah mes parents à ce moment-là payaient toutes les charges de la maison. Et je savais qu'un an après je pouvais retrouver mon travail. Donc j'avais mis de l'argent de côté, je m'étais organisée, j'avais une sécurité en fait, j'avais un vrai filet de sécurité, c'était assez organisé. Et d'ailleurs un an après j'ai repris le travail, alors que j'avais trouvé oui, si j'avais trouvé déjà une maison d'édition. Mon premier roman n'était pas encore sorti, mais j'avais signé mon premier contrat d'édition. Mais je pouvais pas me permettre financièrement de m'arrêter plus d'un an, donc j'ai repris le travail. Mais en revanche, j'ai repris le travail au 3/5, c'est-à-dire que j'ai finalement changé de boîte, changé d'entreprise. Et la nouvelle entreprise pour laquelle je travaillais, toujours en marketing, a accepté que j'ai un contrat au 3/5, et que donc j'avais 4 demi-journées par semaine, 4 matinées où je travaillais pas. Et ces 4 matinées, je les ai dédiées à l'écriture. Et ensuite, un peu plus tard, je suis passée à mi-temps. Ensuite, je suis passée en freelance. Ça vraiment, c'était très progressif, ça a pris plusieurs années. Et quand j'ai vraiment arrêté complètement de faire du marketing, j'avais déjà, je crois que c'était en 2018, 2017 ou 2018, donc j'avais déjà 5 romans au total, en comptant les romans jeunesse, qui étaient sortis. Donc c'est ça, voilà. Oui, il fallait du temps pour construire un lectorat, pour construire aussi un moyen de gagner suffisamment d'argent pour vivre. Alors au début c'était pas, aujourd'hui je peux vivre que de mes droits d'auteur, mais pendant longtemps il y avait mes droits d'auteur, mais il y avait aussi plein de projets que j'avais à côté. J'animais beaucoup d'ateliers d'écriture, je faisais des rencontres, je relisais, je faisais des fiches de lecture aussi pour des maisons d'édition, je lisais des manuscrits en anglais, et je devais faire des fiches de lecture pour dire bah ça peut vous intéresser ou pas. C'était hyper enrichissant, parce que bah, ça me permettait de lire plein de livres et de me poser la question de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qui me touche dans ces livres-là, pourquoi est-ce que je suis pas touchée par ces personnages. Enfin, c'était extrêmement formateur, même si quand j'ai commencé à faire ça, je l'ai pas fait pour ça, je me rendais pas compte que ça allait m'apporter autant. Voilà, donc je sais pas, je sais que c'est plus romantique de dire qu'un jour je me suis levée de mon bureau et j'ai claqué la porte. C'est un peu ce que j'ai raconté en plus dans un de mes romans qui s'appelle Je peux très bien passer toi, qui est l'histoire d'une fille qui claque la porte et qui va s'enterrer à la campagne pour écrire. Et si évidemment, parce que ce livre je l'ai écrit pendant moi, mon année à la campagne pour écrire, si évidemment c'est inspiré de ce que j'ai fait, ça a été le point de départ de cette histoire. C'est vraiment un roman, parce qu'en réalité, moi, j'ai fait les choses extrêmement progressivement.
Oui, et puis en ayant un filet de sécurité et en sachant que financièrement c'était viable, bref, c'est compliqué entre guillemets de se lancer dans la vie d'auteur quand on n'a pas de backup derrière, quand on n'a pas des aides, du chômage ou quelqu'un pour nous soutenir financièrement.
Il faut un plan, oui. Il faut un plan, parce que d'ailleurs ça arrive que des gens m'écrivent et me disent je rêve d'écrire, c'est ma passion, etc. Est-ce que vous pensez que je dois quitter mon travail pour écrire? Et vraiment, je réponds toujours surtout pas. Faut un plan, parce que déjà il y a peu d'auteurs qui vivent de leur plume, et il y a encore moins d'auteurs qui vivent juste d'un premier roman. Et le problème, c'est que dans les médias, on nous raconte beaucoup ce conte de fées qui est le premier roman qui explose tout de suite, qui se vend à 500 000 exemplaires, et qui lance un auteur sur voilà une très belle carrière. Évidemment que les auteurs comme ça, ils peuvent en vivre même très bien, très vite. Mais ça reste des exceptions. La plupart des auteurs, ils construisent d'année en année un lectorat, ils construisent des relations avec les libraires, avec les lecteurs. C'est un marathon en fait. C'est vraiment quelque chose de long terme. Et il faut garder en tête hein, que financièrement, c'est pas évident pour plein d'écrivains. Sur un livre qui coûte 20 euros, un grand format à 20 euros, en général, un auteur, il touche 10%, c'est-à-dire 2 euros par livre. Alors, il y a une avance, mais voilà, il faut un plan. C'est ce que je dis aux gens, on quitte pas son travail sur un coup de tête pour écrire. Ou alors, on peut le faire, hein, bien sûr, tout le monde fait, enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut garder en tête que la probabilité qu'on arrive à vivre des revenus d'un premier roman, elle est extrêmement, extrêmement faible.
Bien sûr. Et toi, tu as commencé à te dire que c'était bon, que ça allait pouvoir être ta carrière, à partir de quel roman? Tu vois, vu que tu faisais plusieurs choses en même temps, que du coup tu cumulais le double emploi, on peut dire, à partir de quel moment, donc tu as dit que tu t'étais arrêté en 2018, tu as eu ce truc de te dire, ok, là c'est bon, là je suis lancé, et ce roman-là, avec le cumul des précédents, me permet de devenir écrivaine à plein temps.
Le roman qui a changé vraiment les choses, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui a très très bien marché puisque il est sorti en 2019, je crois. Oui, ça doit être ça. Il est sorti en 2000 parce qu'il est sorti après la naissance de ma première fille. Donc c'est ça, 2019. Et je faisais encore plein de trucs. Alors j'étais en freelance, j'étais plus en CDI à ce moment-là. Je faisais encore plein de trucs à côté, mais c'est vrai que ce livre-là, il a marché très vite, très bien. Là aujourd'hui, on a dépassé les 200 000 exemplaires vendus. Et du coup, bah derrière, ça m'a fait franchir. En fait, il y a des espèces de caps qu'on franchit. Qui sont un peu des niveaux de notoriété à la fois auprès des lecteurs, mais aussi auprès de l'industrie du livre, c'est-à-dire bah, des libraires. C'est tellement important les libraires dans le succès d'un livre, la presse, etc. Qui fait que derrière, je partais plus du tout quand je sortais un livre, je partais plus du tout du même point de départ. Donc c'est ce livre-là et c'est mon quatrième livre adulte. Et j'avais sorti 3 livres jeunesse, donc c'est mon 7e roman quand même. Rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire que là, je sais que je suis tranquille pendant. Allez, je sais qu'entre les 5 et 10 prochaines années, parce que je vais cumuler les droits d'auteur de tous les romans que j'ai déjà sortis, même si mes romans plaisent moins, je vais pouvoir avoir un revenu suffisant pendant quelques années. Mais j'ai aucune garantie que jusqu'à ma retraite, je vais réussir à gagner ma vie avec ça. Et ça, il n'y a jamais de sécurité de ce point de vue-là, parce que les choses évoluent très vite. On voit, hein, il y a des auteurs qui ont des gros succès, et puis derrière, ça, les suivants suivent pas. On ne sait pas forcément expliquer pourquoi les lecteurs s'enthousiasment pour un livre plutôt qu'un autre. C'est magique, hein. C'est à la fois ce qui fait la beauté des choses, mais qui aussi forcément est toujours un peu angoissante. C'est pour ça que chaque sortie de livre, c'est angoissant, hein, de se dire est-ce que les gens vont aimer, est-ce qu'ils vont. Enfin, moi, j'ai toujours hyper peur de décevoir mes lecteurs. Les lecteurs qui ont lu mes livres précédents, à la limite, je trouve ça beaucoup plus stressant de sortir un livre maintenant que mon premier roman. Parce que mon premier roman, finalement, on déçoit des gens qu'on connaît pas. Non pas que je connaisse mes lecteurs, mais les lecteurs qui ont lu plusieurs de mes livres, qui attendent le suivant, bah, j'ai, ouais, ça me fait de la peine l'idée de les décevoir. C'est vraiment une angoisse pour moi. Et ça s'explique pas. Donc c'est comme ça. Chaque nouveau livre, c'est un peu l'aventure. Mais bon, j'en profite. Il faut en profiter tant que ça. Voilà, en ce moment, j'ai de la chance, ça fonctionne bien. Et tant que ça dure, bah, j'en profite et puis on verra si à un moment ça marche plus, on verra.
Mais est-ce que justement, c'est pas, ça crée pas des angoisses aussi juste devant la page à devoir écrire, d'avoir cette pression de toujours vouloir faire toujours mieux, de toujours vouloir conquérir plus de gens, de se dire qu'on doit faire en sorte que notre livre soit meilleur que le précédent. Est-ce que des fois, tu ne te retrouves pas finalement bloqué parce que bah, c'est des attentes qui sont très complexes à gérer?
En fait, c'est à double tranchant. Parce que à la fois, je trouve que c'est super stimulant de se dire il faut que je fasse toujours mieux. C'est effectivement, hein, c'est angoissant, c'est une pression, mais ça a un côté, bah ça me donne vraiment envie de faire mieux. Cette volonté de pas décevoir les lecteurs, puis même pour moi, de me dire sous certains aspects, c'est une carrière comme une autre, c'est-à-dire qu'on a envie de progresser. On n'a pas envie de faire la même chose. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de faire la même chose tout le temps. Voilà, je t'ai dit, j'ai 38 ans, donc potentiellement, j'ai encore 30 ans devant moi d'écriture. J'espère que je vais progresser, j'espère que j'écrirai des livres différents. Et ça veut pas dire que je considère que j'écris toujours mieux d'année en année, mais en tout cas, j'essaye. Et je trouve que ça, c'est génial, c'est inspirant, c'est stimulant, alors que finalement, les tout premiers romans que j'ai écrits toute seule dans mon coin, sans ce stress-là de me dire, il y a des gens, je le sais, qui vont lire, il y a des gens qui vont avoir une opinion, qui vont juger, qui vont être contents ou déçus, qui vont, bah, il y a moins de, même si évidemment enfin, je vais essayer de faire de mon mieux, mais voilà, cette pression, là, c'est ce côté-là bénéfique de me donner envie de faire vraiment de mon mieux. Et effectivement, comme tu dis, c'est angoissant. Alors, il faut toujours relativiser, hein. Il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde que de sortir un livre et que ce livre ce soit un four qui plaise pas aux gens. Je pense en plus et c'est un truc que je me répète d'année en année, que c'est inévitable, parce que moi, même les auteurs que j'adore, même les auteurs que je lis tous les ans, de temps en temps, il y a un livre que j'aime moins. Et je le sais, c'est inévitable parce qu'en plus c'est subjectif, c'est personnel, la raison pour laquelle on aime un livre ou pas. Comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine magie dans cette rencontre entre un lecteur et un livre qu'on n'explique pas forcément, hein. On est deux à écrire le livre parce que il y a moi qui écris la vision que j'ai dans ma tête de l'histoire et puis il y a ce que le lecteur, la lectrice interprète de ce que moi j'ai écrit. Je sais que ce qu'il a dans sa tête, c'est pas ce que moi j'ai dans ma tête et c'est ça qui est génial aussi. Donc c'est imprévisible, donc inévitablement. Je sais que si j'écris régulièrement des livres, il y en a qui vont moins plaire et peut-être qu'un jour je vais faire un énorme four et tout le monde dira, mais c'est une énorme daube, le nouveau mari pareil. Voilà. Et je le saurai, hein, parce qu'il faut pas croire. Je lis les commentaires, je regarde quand j'ai un livre qui sort, je suis très très attentive à ce qui se passe, à ce que disent les gens. Donc quelque part, il faut se préparer à ça parce que je pense que ça finit par arriver. Et donc, comme on sait que enfin, je sais que ce risque existe. Oui, je suis hyper stressée, je suis hyper angoissée. Voilà, même si je sais que c'est pas la fin du monde, qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Moi, quand j'ai un livre qui sort, tu vois, La Dernière Allumette, là, il sort le 4 mars. On enregistre ce podcast le 21 novembre, beaucoup en avance. Et ben, j'ai déjà des insomnies à l'idée de, parce que là, je suis en train de rendre le manuscrit final, je suis dans les dernières relectures. Et ça y est, le stress, il est déjà là, l'angoisse, elle est déjà là. Et oui, ça, c'est un peu dur. Je pensais pas qu'écrire était un métier stressant. Et d'ailleurs, au début, ça l'était pas. Et c'est pour ça que c'est à double tranchant, parce qu'il y avait une espèce de liberté, de tranquillité d'écrire tranquillement quand j'étais pas publiée, quand il n'y avait pas d'enjeu, que j'ai plus aujourd'hui, que j'ai perdu. L'insouciance que j'ai perdue.
Mais d'ailleurs, quand tu sors un roman, là c'est une question que je n'avais pas prévue, qui est purement personnelle. Quand tu sors un roman et que tu es déjà en train d'écrire le suivant, où va ton stress finalement? Dans le roman que tu es en train d'écrire ou dans le roman qui va être en train de sortir?
C'est mon problème, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me mettre sur un nouveau roman. En fait, il y a un temps pour moi. Tous les auteurs sont pas comme ça, mais moi, j'ai vraiment besoin d'un temps pour me détacher du livre que je viens d'écrire. Parce que je suis restée très longtemps dedans avec les personnages, avec et il reste avec moi assez longtemps. Et en général, tant qu'il n'est pas sorti, j'ai vraiment du mal à me détacher de cette histoire-là, à me concentrer sur autre chose, à décider. Parce que écrire un livre sur quelque chose, c'est une décision. Il y a des auteurs qui ont une certitude de ce qu'ils vont écrire après. Moi, en général, j'ai pas mal, j'ai une nébuleuse d'idées, mais c'est jamais très clair, quoi. Et à un moment, je décide. Je me dis, bon, bah, cette idée-là, en fait, elle est revenue suffisamment de fois. J'y pense suffisamment, pendant, voilà, dans la journée, elle revient, je cogite dessus, etc. Donc, je vais écrire celle-là. Mais c'est une décision, c'est pas une évidence, le livre que je vais écrire. Et pour prendre cette décision-là, il faut que j'ai la tête un peu claire. Et pour que j'ai la tête claire, il faut que mon livre d'avant, il soit un peu, les lecteurs s'en soient emparés, on va dire. Parce qu'à partir du moment où ils s'en sont emparés, bah, il est plus à moi. Mais, donc, je suis théoriquement supposée commencer à écrire avant que mon livre sorte. Souvent, j'ai des contrats déjà signés, et je suis supposée écrire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Donc, voilà, c'est le stress de la sortie, et puis après, dès qu'il sort, il y a un truc aussi qui se passe parce que dès qu'il est sorti, très vite, je sais, bon, je sais si les gens l'aiment ou pas. En gros, ça c'est assez rapide parce qu'il y a très vite des premiers commentaires. Et il y a un moment, ça, j'arrête justement de lire les commentaires, ça m'intéresse plus, et là je commence à être dans le prochain. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le prochain. Et presque, je délaisse celui d'avant. Y a vraiment, mais avoir en tête deux livres à la fois, c'est compliqué, je trouve.
Mais d'ailleurs, comment c'est possible que tu aies des contrats signés alors que tu ne sais pas encore quelle idée tu vas écrire?
Bah, j'ai un contrat de roman. Et sur le contrat, il y a écrit roman 11 ou 12. Y a pas. Alors, mais ça, c'est pareil, c'est un truc. Que j'ai la chance d'avoir, c'est-à-dire en gros d'être payé avant de commencer à écrire, mais qui arrive que au bout d'un moment, quoi, qu'on n'a pas du tout pour les premiers romans. En gros, pour être très concrète, hein, c'est parce que la maison d'édition qui publie actuellement a pas envie que je parte chez quelqu'un d'autre et que donc ils préfèrent me signer un contrat d'avance. Plutôt qu'une fois mon livre terminé, je me dise, ah bah tiens, ou quelqu'un vient de me voir et dise, ah bah tiens, t'as un livre en cours, ça nous intéresse. Là, le livre que j'ai en cours, il appartient déjà, il est déjà sous contrat, donc personne peut venir le prendre. Ça, c'est des choses très pragmatiques, on va dire, de la part de la maison d'édition.
Moi, j'étais un peu curieux, j'avoue. Aujourd'hui, donc, tu as écrit 11 romans, tu es maman de deux petites filles, tu voyages quand même pas mal puisque tu vis à l'étranger, tu viens faire des dédicaces, quand tu n'as pas d'entorse au genou, hein, je préfère préciser, puisqu'en ce moment, là, tout de suite, avec l'heure en laquelle on parle, tu es un peu bloqué. Dis-moi, comment instaures-tu une discipline d'écriture quotidienne quand on a une vie comme ça qui va à 1000 à l'heure?
Bah, c'est pas évident, mais d'un côté, j'ai envie de dire c'est nécessaire parce que moi, l'écriture, c'est un peu mon temps de méditation, on va dire. C'est des moments où je suis complètement concentrée à 100% sur ce que je suis en train de faire, sur mon histoire, mes personnages. Ça fait disparaître le monde extérieur, l'écriture. Et justement, bah, dans ces moments, effectivement, c'est vrai que je suis dans une période de ma vie qui est assez intense puisque j'ai deux petites filles qui ont 3 et 5 ans, donc qui ont encore besoin de beaucoup, beaucoup d'attention, de soins, etc., de temps, et c'est normal, et j'ai envie d'en profiter aussi, moi. C'est vrai que j'ai beaucoup de déplacements et alors autant j'aime beaucoup rencontrer des lecteurs et tout, autant tout ce qui est justement faire sa valise, prendre le train, prendre l'avion, tout ça c'est assez pesant pour moi. C'est pas un truc qui m'excite, qui m'amuse particulièrement. Donc j'ai besoin de ces temps d'écriture, mais je me les impose aussi parce que parfois effectivement c'est compliqué de se dire je vais me poser dans le silence et je vais Je vais oublier la to-do list de l'école, voilà, le prochain salon, le contrat à relire, etc. Tout ce qu'il y a dans tous les petits problèmes du quotidien pour aller raconter des événements qui n'existent pas, qui arrivent à des personnages qui n'existent pas pendant des heures toute seule dans mon coin. Et après, de manière très concrète, hein, aujourd'hui, mes horaires de travail, donc c'est-à-dire à la fois d'écriture, mais aussi de promotion, de voilà, tout l'administratif qui va avec la vie d'écrivain, dont on ne se rend pas toujours compte, mais qui en fait prend pas mal de temps. C'est les horaires de l'école, c'est les horaires de la crèche. Moi, j'adorais avant, quand j'avais pas encore d'enfant, j'écrivais très tôt le matin. Je me levais tôt, même si j'étais pas obligée, et j'aimais bien écrire, commencer à 6h30, 7h, et écrire jusqu'à 10h. C'était, voilà, c'est un moment qui est toujours très calme, on n'est pas dérangé, tout le monde dort, je sais pas, ça me stimulait quelque part de commencer avant que le jour se lève. Aujourd'hui, évidemment, c'est impossible. Déjà, dès que j'ai eu des bébés, ça a été impossible, puisque je dormais pas la nuit, et puis à 6h du matin, fallait s'occuper fallait donner des biberons, changer des couches, le tout un peu comme un zombie, parce qu'on avait dormi très peu pendant la nuit. Donc ça j'ai adapté mon temps d'écriture à l'évolution de ma vie personnelle. Mais il y a des moments, il y a des périodes, je refuse tout. Je refuse toutes les distractions, à la fois je refuse des événements, des salons, des dédicaces, je refuse des choses perso, je refuse bah là voilà, si tu m'avais contacté dans la mauvaise période, je t'aurais dit bah non, je peux pas enregistrer de podcast parce que j'écris et que j'ai pas envie d'être dérangée. Parce qu'en soi, on se dit 1 heure, c'est rien, sauf que bah les heures, elles passent vite. Et puis les choses se cumulent, et puis il y a les imprévus, il y a les enfants malades, il y a toujours des choses qui viennent dynamiter, voilà, une organisation bien huilée. Et donc il y a des périodes où je fais un pas de recul.
Et du coup, aujourd'hui, si tu devais décrire une journée de boulot type, tu serais comment?
Bah c'est si je suis dans une période d'écriture, donc là typiquement je suis dans une période qui est des dernières relectures, c'est-à-dire il y a des allers-retours, je travaille sur les épreuves, ce qu'on appelle les épreuves, c'est-à-dire c'est le livre est déjà en PDF, il est déjà mis en place et il est corrigé par une correctrice professionnelle, donc si tu veux il n'y a plus qu'un seul fichier, donc moi je peux pas. C'est pas comme quand j'envoie mon Word aux gens pour leur demander des avis et que je continue de travailler dessus. C'est-à-dire que soit le fichier, c'est moi qui travaille dessus et je travaille dessus à fond toute la journée, soit il est chez la correctrice, il est chez mon éditrice qui la note. Et à ce moment-là, ça sert à rien que moi je travaille de mon côté puisque j'ai pas le bon fichier et qu'on va pas consolider 12 fichiers différents. Donc là, par exemple, vendredi, j'ai rendu une version des épreuves. Donc la semaine dernière, pardon, j'ai fait que ça. Alors comme tu as dit, il se trouve que j'ai une entorse au genou, donc j'étais sur mon canapé et toute la journée, de toute façon, je pouvais même pas emmener ou aller chercher mes filles puisque je pouvais pas marcher. Donc j'étais vraiment sur mon canapé toute la journée à relire, à corriger, à noter mon manuscrit, enfin qui est plus oui, mon fichier, mon roman. Et là, cette semaine, j'ai plus le fichier. Donc, je vais m'occuper plus de la promotion. Alors, si, il faut, par exemple, il faut que j'écrive mes remerciements là, cette semaine. Mais en réalité, ma semaine, elle est plus tranquille. Parce que là, j'ai pas de deadline et j'ai pas le droit de travailler sur mon roman. Donc, j'attends qu'on me le renvoie. Là, on a des discussions sur la couverture en ce moment, sur la quatrième de couverture, tout ce qu'il y a autour, quoi. Mais c'est pas aussi intense que quand vraiment le temps que j'ai de 9h à 17h, hein, qui sont un peu mes journées de travail, puisque je travaille jamais quand mes enfants sont à la maison, parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas. Elles sont trop petites pour comprendre que si je suis dans mon bureau, j'arrive pas à l'imposer, elles n'ont pas le droit de venir. Et quand je les entends, moi, j'arrive pas à me concentrer, donc ça sert à rien. Mais là, en ce moment, cette semaine, je ne travaille pas hyper intensément de 9h à 17h, quoi. Je réponds à des mails, je regarde des essais de couverture. Voilà, je fais des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus tranquille, on va dire. C'est très irrégulier, en fait, mon emploi du temps.
Je vois ça, je vois ça.
Mais quand j'écris un livre, je vais quand même préciser ça, quand je suis dans l'écriture d'un livre, là, j'essaye vraiment d'avoir une discipline qui est très forte, d'écrire tous les jours un certain nombre d'heures pour pas sortir de mon histoire, pour rester dedans et pour avancer. Et là, oui, quand je suis dans l'écriture vraiment d'un premier jet, là, je suis beaucoup plus stricte. C'est ces périodes-là, d'ailleurs, où je suis beaucoup moins disponible, en fait, pour qui que ce soit, où j'essaye d'être vraiment concentrée sur l'écriture et de réserver ces heures que j'ai entre 9h et 17h pour écrire ou pour travailler sur mon livre, hein, parce que écrire, ça veut dire aussi relire, ça veut dire faire des recherches, voilà, ça veut dire faire des plans, réfléchir. Enfin, bon, y a plein. C'est pas que écrire. Mais j'essaie de me concentrer là-dessus et là ça demande beaucoup plus de discipline finalement que quand je suis là un peu encore entre deux romans.
Je vois, je vois. Dis-moi, en plus de tout ce que tu fais pour écrire tes romans, tu t'es lancé dernièrement dans un podcast qui fait 10 épisodes, écrit un roman, une masterclass de Marie Vareil, ainsi que tu avais publié un guide il y a quelques temps maintenant, écrit un roman, comment devenir écrivain, écrire un livre et le faire publier. Est-ce que, justement, le fait d'être là aussi aujourd'hui avec moi, de prendre ton temps dans ta semaine, est-ce que tu trouves que c'est important pour toi de transmettre tes connaissances sur l'écriture et sur ton métier?
Oui, parce que bah comme je disais au début de podcast, aux États-Unis, on étudie beaucoup tout ce qui est creative writing. Donc à la fois évidemment tout ce qui est scénario, etc. pour travailler dans l'industrie du cinéma, mais aussi vraiment pour on étudie en fait, on apprend à faire de la littérature. Et ça en France, c'est quelque chose qui se démocratise un petit peu, mais qui reste très un peu tabou, quoi. Il y a cette idée que la littérature, ça s'apprend pas, c'est magique. On a du talent, on a le don ou on l'a pas. Et c'est vraiment pour ça, c'est vraiment un art à part, parce qu'on dira jamais un pianiste de génie. On n'imagine jamais qu'il a appris à jouer du pied, qu'il s'est réveillé un matin et qu'il savait jouer du piano parce qu'il avait le don du piano. On sait qu'il va falloir qu'il fasse du solfège, qu'il va falloir des années d'entraînement, voilà, de tentatives, de travail. C'est pareil pour la peinture. Il faut apprendre des techniques de dessin, etc. Mais la littérature a ce truc un peu sacré en France, qui va aussi avec un grand respect des livres, voilà, qui est super, mais qui du coup donne cette impression, bah, que finalement, si on n'a pas un talent de fou dès le début, on n'a aucune chance de réussir à écrire. Et moi, j'ai fait un an d'études aux États-Unis, pas en littérature, toujours puisque j'étudie le marketing, toujours côté business. Mais c'est vrai que pendant cette année, j'ai découvert justement ce que c'était que le creative writing américain et tout ce qu'on pouvait apprendre sur comment on raconte une histoire, comment on crée des personnages intéressants, comment on progresse finalement dans l'écriture d'un roman. Et moi, ça m'a énormément aidée. J'ai évoqué bah, ce livre que m'avait offert mon père. Mais dans la foulée, en fait, quand j'ai compris que ça existait, j'en ai lu plein d'autres. J'ai suivi des cours en ligne, j'ai écumé des sites, j'ai cette chance de parler anglais, donc il y avait un contenu illimité en fait, de plus ou moins d'ailleurs bonne qualité, hein, mais sur le sujet. Il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui, hein, depuis quelques années en français, il y a des masterclass d'écriture, à la fois en ligne et en présentiel, il y a des ateliers d'écriture, il y a plein de choses qui sont proposées. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé à me lancer, à aller au bout, à progresser. Et donc, bah, je me dis peut-être que moi, ce que j'ai à dire, ma propre expérience, ça peut aider les autres. Et d'où ce podcast, effectivement, qui est disponible sur Audible, qui en 10 épisodes que j'ai sorti bah là, l'été dernier, mais qui donc a été écrit, enregistré, etc., les 18 mois qui ont précédé, hein, ça a été assez long. cette masterclass sur moi, comment j'écris. Alors c'est toujours pareil, ça n'engage que moi et j'ai bien conscience parce que j'ai eu ce truc à un moment qui s'appelait l'écrivain du mardi où j'interviewais tous les mardis un écrivain sur comment il écrivait, pourquoi, quelle a été sa carrière et tout. Et malheureusement, j'ai plus trop le temps là de le faire. Mais ce que si j'ai appris une chose dans toutes ces interviews, et j'en ai fait vraiment des dizaines et des écrivains très différents, voilà, qui écrivaient des livres vraiment différents. Mais ce que j'ai appris, c'est que tout le monde a sa propre façon finalement d'appréhender l'écriture, de se lancer dans l'écriture, etc. Et donc, je le dis, moi, ce que je dis, ça n'engage que moi. C'est moi ce qui m'aide, c'est la façon dont je procède. Ça veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde, mais je me dis que ça peut marcher pour certaines personnes. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien partager ça. Et de toute façon, j'ai un peu une fascination sur, et ça depuis que je suis petite, hein, pour les histoires, pour la raison pour laquelle on s'intéresse aux histoires, alors qu'on sait que c'est de la fiction, on sait que ça n'existe pas, et pourtant on pleure, pourtant on rit, on s'attache aux personnages, on a cette impression de vérité qui est presque plus forte finalement que ce qui arrive dans la vraie vie, et ça me fascine. De savoir comment on fait, et d'ailleurs c'est ce que je dis, hein, parce que écrire un roman, c'est pas raconter une histoire, c'est la faire vivre au lecteur. Et c'est comment on fait vivre une histoire au lecteur juste avec des mots, quoi. Comment on les met dans le bon ordre, comment on choisit les bons mots pour que le lecteur il ait l'impression de vivre l'histoire que vous avez racontée. Ça me fascine.
Toute la magie qu'on peut faire avec 26 lettres.
Voilà, exactement.
Dis-moi, est-ce que tu as la sensation, avec le dernier roman qui, alors pour vous, à l'heure où vous écoutez ce podcast, vient tout juste de sortir, qui s'appelle La dernière allumette, donc tu vas peut-être d'ailleurs nous parler un petit peu du résumé, peut-être, nous pitcher un petit peu, même si le résumé, la quatrième de couverture, n'est pas encore validé, mais peut-être nous pitcher l'histoire. Est-ce que tu as la sensation, justement, avec ce roman, d'être allé toucher, justement, cette part du lecteur, que toi, tu aimes tellement faire avec la magie des mots?
Ah bah ça, je peux pas le savoir avant qu'il soit lu. Moi j'ai vécu l'écriture parce qu'il y a aussi ça. Il y a quand même en tant qu'auteur, si on écrit, c'est parce qu'on a envie. Alors je sais pas, j'ai vu le sujet du livre. Je sais pas si je peux dire que j'ai envie de vivre l'histoire, mais en tout cas j'ai envie de rentrer dans l'histoire et de vraiment comprendre les personnages. J'ai envie qu'ils soient vivants pour moi. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire déjà dans l'écriture, c'est que les personnages soient vraiment vivants et d'ailleurs que quelque part ils prennent leurs propres décisions et il y a un moment où ils prennent vraiment vie. Donc ça, de toute façon, je rends jamais un livre tant que je suis pas arrivée à ce stade-là. Donc s'il va sortir, c'est forcément que moi je suis arrivée à ce stade de l'écriture où j'ai l'impression que c'est vrai, j'ai l'impression que je suis dedans, que mes personnages ils sont à côté de moi. Et voilà. Après, est-ce que le lien va se faire avec le lecteur de la même façon et lui aussi va rentrer dans l'histoire, lui aussi va avoir l'impression que les personnages sont vivants. Ça, je peux pas le savoir avant que le livre soit sorti. J'ai des retours, hein. J'ai eu des bons retours pour le moment. Pas l'habitude encore de le pitcher. Mais en gros, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. C'est l'histoire d'un frère et une sœur qui ont grandi avec un père violent. Pas du tout avec eux. Un père qui est très gentil avec eux, mais qui est violent avec leur maman. Et l'idée, c'est de voir la manière dont ils ont grandi. Donc, il y a des allers-retours dans le passé et dans le présent. Dans le présent, donc le frère est devenu un artiste reconnu, qui a une belle carrière, et la petite sœur, elle, est dans un couvent enfermée et manifestement elle va pas bien du tout. Et on les suit à la fois dans le présent et dans le passé pour comprendre comment ils en sont arrivés là. Et l'idée étant, j'avais lu cette stat qui m'avait vachement choquée, qui était que il y a 3 enfants sur 4 qui ont grandi dans un foyer violent, même si eux-mêmes ne sont pas victimes de violence. C'est-à-dire, ils ne font qu'assister, comprendre la violence, mais ils sont pas eux-mêmes victimes directement des coups. 3 enfants sur 4 qui grandissent dans ces conditions-là, qui deviennent soit auteurs de violence, soit victimes de violence. C'est-à-dire qu'ils vont reproduire à l'âge adulte le comportement, ce qu'ils ont vu en fait chez leurs parents, dans leur famille. Parce que évidemment, sa famille pour un enfant, c'est la normalité. Et que quand on a 6 ans, 7 ans, on remet pas en question voilà, le fait que ses parents sont enfin normaux, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas que c'est acceptable finalement ce que voilà la façon dont vivent les parents. Et 3 sur 4, je me suis dit mais c'est terrible parce que ça veut dire que bah, on amplifie le problème quoi de génération en génération. C'est des générations entières d'enfants qui sont sacrifiés quelque part et dont on sait qu'ils vont reproduire des choses qui sont inacceptables pour nos sociétés. Ça m'avait beaucoup marqué et donc finalement le thème du livre c'est aussi dans quelle mesure on peut arriver à surmonter tout ce qui est les traumatismes d'enfance. Quand on a vécu dans son enfance des traumatismes graves et la violence intrafamiliale c'est qu'un exemple hein, des traumatismes qu'on peut vivre dans l'enfance. Est-ce qu'on peut arriver à surmonter ça à l'âge adulte? Parce que je pense que quand on, enfin moi ma théorie, parce que j'ai une idée hein, derrière la tête, mais c'est quand même que quand on vit des traumatismes à l'âge adulte, mais que on a eu une enfance solide, équilibrée, on s'est senti entouré, etc., on est beaucoup plus à même de les surmonter et d'arriver à vivre avec que quand on les subit enfant et qu'on n'a pas les armes, en fait on n'a pas les outils pour comprendre et surmonter ces choses-là. Donc on devrait protéger les enfants, on devrait toujours protéger les enfants. Et quand la famille n'est pas capable de le faire, quand les parents sont pas en capacité de le faire, soit parce qu'ils sont violents, soit parce qu'ils sont eux-mêmes sous emprise, victimes de violence, bah je pense que là il y a voilà c'est à l'État de protéger les enfants. Et c'est un peu le voilà l'idée générale du livre. C'est un livre qui est plus sombre que ceux que j'ai écrits avant, je vais pas mentir, mais ça reste un livre qui, parce que je suis l'éternelle optimiste, parce que je vois le côté positif des choses, ça reste un livre qui est lumineux, qui est positif. C'est pas du tout un livre glauque ou sordide ou parce que voilà, je veux pas du tout écrire ça. Donc, je précise que malgré le thème qui est difficile, c'est un livre qui est positif. Enfin, j'espère. Moi, je le vois comme ça, en tout cas.
Bah écoute, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le pitcher, je trouve que tu le pitches au contraire très bien. Et que je trouve que ça donne très envie de
J'ai fait.
découvrir ce
Merci.
livre et ça donne envie d'en savoir plus et de voir comment tu as amené ça. Ça a dû effectivement pas être des sujets faciles à aborder. Est-ce que dans le cadre de ces sujets, est-ce que tu t'es aussi penchée sur des témoignages d'enfants ayant subi ce genre de violence intrafamiliale peut-être? Ou est-ce que tu as pu discuter de vive voix même de sujet de ton roman avec ces enfants devenus adultes?
Les deux. J'ai fait beaucoup de recherches pour ce roman parce que c'est pas. Oui, je précise quand même hein, que c'est pas mon histoire. Moi, j'ai la chance justement d'avoir une enfance assez protégée. Et ce qui m'est arrivé de difficile dans la vie, parce qu'il m'est arrivé des choses difficiles comme tout le monde, c'est arrivé à un âge où justement j'avais, je pense, les outils pour affronter ce qui m'est arrivé. Donc c'est pas un sujet avec lequel j'étais très familière. J'ai fait énormément de recherches, à la fois des recherches plus théoriques. J'ai lu des livres, voilà, pas mal d'articles, etc. J'ai eu la chance de discuter et avec une personne qui est juge pour enfants. Donc qui avait l'aspect juridique et l'expérience aussi bah, de toutes les familles avec qui elle avait pu travailler, m'expliquer en fait comment ça se passait en France, avec quelqu'un qui a grandi avec un père violent, alors qui est pas exactement dans le même cas de figure que mon histoire, parce qu'en l'occurrence c'était un père qui était violent aussi avec les enfants, mais qui a pu partager son expérience. Et j'ai aussi pu lire, alors ça c'est un peu un trou sans fond et qui parfois ça a été difficile d'ailleurs. C'est-à-dire j'ai commencé aussi à taper sur Google, à regarder sur des forums. Voilà, je vous conseille pas de le faire parce que c'est vraiment déprimant de me dire mon copain m'a tapé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon mari me tape, est-ce que c'est normal? Et puis, j'ai porté plainte contre mon mari, mais je veux retirer ma plainte. Ma femme a porté plainte contre moi. J'ai tapé ma femme. J'ai fait toutes ces recherches-là à Google et j'ai regardé ce qui sortait. Et en fait, il y a de multiples forums. Il y a des forums juridiques, hein, avec des avocats qui expliquent, alors c'est leur métier, enfin voilà, mais qui expliquent comment est-ce qu'on peut faire pour lever une injonction d'éloignement, par exemple, contre un mari violent. Comment est-ce qu'on peut faire pour voilà, retirer une plainte contre un mari violent, parce que ce qu'on sait, hein, c'est qu'il y a une telle emprise finalement de la victime de violence que même si parfois il y a elle arrive à porter plainte ou elle se retrouve dans une situation où si elle est à l'hôpital, etc., on arrive à la convaincre de porter plainte, il y a des regrets derrière, il y a la volonté de revenir avec voilà, un conjoint violent. Et là, quand on descend ce trou-là, honnêtement, c'est vraiment difficile. Hein. Moi, ça a été difficile, hein, pour moi de lire tout ça parce que c'est des vrais gens, c'est des vrais témoignages. Parfois, c'est des filles qui sont très jeunes, qui se retrouvent dans des situations terribles. Il y a un podcast aussi qui est passionnant sur France Culture qui s'appelle Des hommes violents. Et qui a été fait par un journaliste qui a participé à un stage justement pour des hommes qui avaient été condamnés pour violence, voilà, si le sujet intéresse, je recommande d'écouter, même si c'est pareil, hein, c'est pas un truc qui est très joyeux. Et dans la foulée, le même journaliste a écrit un livre qui s'appelle Nos pères, nos frères, nos maris, où il approfondit justement ce sujet des violences intrafamiliales, enfin conjugales, et qui sont très très bien, enfin moi qui ont vraiment participé à l'écriture de mon livre.
Je vois. Effectivement, il faut mieux être très renseigné pour ce genre de sujet bien sensible.
Oui, il faut vraiment essayer. Et puis c'est un sujet qui est très compliqué, hein. Qui est très et si on creuse un peu, si vraiment on se pose la question honnêtement, je pense qu'on est beaucoup, hein, moi ça m'a forcé à revenir sur certaines des relations que j'avais eues. J'ai jamais subi de violence physique, mais il y a quand même certaines relations plus jeunes que j'ai eues plus jeunes, où je me dis ça c'était des choses qui tenaient vraiment lieu de violence, enfin qui étaient de la violence psychologique au moins. Et on s'est retrouvé dans des situations où on accepte des choses où avec le recul, on comprend pas comment on a pu voilà, se voiler autant la face, ce qui est justement le principe de l'emprise en fait, c'est que on s'auto-persuade finalement que la situation va s'arranger, que la situation n'est pas si grave, que ce qu'on retire de positif de la relation compense cet aspect négatif. Et c'est un sujet extrêmement délicat. De toute façon, le couple en général, c'est un sujet passionnant. Hein. Le couple, que ce soit le couple hétérosexuel ou pas, mais il y a quand même une vision de la famille sociale qui met une certaine pression sur tout le monde, sur ce que doit être un couple, ce que doit être un mariage, ce que doit être une famille. Et qui influence beaucoup nos actions. Quand on commence à décortiquer tout ça, enfin, c'est infini, hein, tout ce qu'il y a à étudier, à apprendre, à analyser. De toute façon, en fait, c'est un rapport humain. Ce qui est passionnant, et dans la littérature et dans la vie, c'est les rapports humains. C'est ça qui est important. Et le couple, c'est un rapport humain très particulier. L'amour, c'est quelque chose qui a été justement tellement raconté, tellement cristallisé, tellement voilà, reconstruit, etc. Que c'est passionnant de creuser un peu sur cette relation-là spécifiquement.
Je vois, je vois. Dis-moi, là, enfin, à l'heure où les gens nous écoutent plutôt, tu viens de sortir ton 11e roman, donc sur ce sujet qu'on vient d'évoquer. Et d'ailleurs, si du coup il vous intéresse, il vient tout juste de sortir. Ça s'appelle La dernière allumette et de Marie Vareille. Je mettrai les notes, enfin les infos dans les notes de l'épisode du podcast. Il vient donc sortir de ton 11e roman. Tu as eu pas mal de tes romans qui ont gagné des prix littéraires, comme le prix Babelio, le prix des lectrices, le prix du meilleur roman jeunesse, le prix Pierre Bottero. Bref, tu as conquis plus d'un demi-million de lecteurs et de lectrices. C'est quoi ton prochain défi? Est-ce que tu en as un? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais accomplir dans ta carrière où tu te dis, ah ça, ce serait vraiment chouette si j'arrivais à atteindre ce point-là?
Bah là, mon prochain défi, mais bon, je vais le dire, mais même si je sais pas si je vais me lancer, mais là, en ce moment, l'idée qui me travaille, ce serait d'écrire un roman historique. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais, jamais fait. Et que je pense justement parce que j'ai fait pas mal de recherches pour La Dernière Allumette, même si c'est un roman contemporain, j'ai pu voir ce que c'est de faire des recherches, d'avoir plein plein de faits réels et à partir de là d'écrire une fiction crédible, on va dire. Et donc je me suis dit bah peut-être que ça c'est possible aussi de transposer ça dans un roman historique. Et c'est un autre travail, c'est un travail complètement nouveau pour moi hein, parce que j'ai vraiment jamais fait ça. J'ai jamais rien écrit qui se passe avant les années 90. Donc ça c'est l'idée qui me titille en ce moment et ce serait mon challenge du moment. Je sais pas encore si ce sera mon prochain roman, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais avoir envie de faire un moment.
Bah écoute, si je vois un jour que tu as signé pour un livre historique, je saurai que tu as réalisé ton challenge. Ça c'est plutôt chouette.
Voilà. Non et après de manière plus générale, hein, j'espère progresser dans l'écriture et avoir de moins en moins de barrières, quoi. Moins en moins peur, finalement, de pas réussir à écrire quelque chose que j'ai envie d'écrire.
Je comprends bien. Dis-moi, on arrive à la fin de l'épisode et j'ai notamment deux dernières questions. La première, c'est la question des auditeurs. Et j'ai une question qui est pas mal revenue. Et en plus, c'était une question que une de mes amies proches, qui est fan de toi, il faut le dire, m'avait demandé, elle m'a dit, s'il te plaît, pose-lui la question. Et donc, je vais la poser dans la question des auditeurs. Elle voulait savoir, et elle n'était pas la seule, comptes-tu réécrire du young adult ou pas ?
Probablement, mais je ne sais pas. C'est une question qui revient souvent. En fait, ce que j'ai écrit en littérature ado, j'ai écrit deux choses. J'ai écrit un roman contemporain qui s'appelle Le syndrome du spaghetti et une dystopie un peu genre voilà Hunger Games qui s'appelle Elia la passeuse d'âme. Et ces deux romans, Elia parce que c'était un roman de genre qui par définition était un roman young adulte et Le syndrome du spaghetti parce que l'histoire que je vais raconter arrivait à des adolescents, elle devait arriver à l'adolescence, ça pouvait pas être autre chose que des romans young adultes. Donc pour moi, dans tous mes personnages, de toute façon, il y a des adolescents, il y a toujours, j'adore les personnages adolescents. Je pense que c'est un âge qui est très déterminant dans la vie. Ce moment où on bascule dans l'âge adulte, c'est un âge qui me touche beaucoup, qui est très important à mon sens. Et puis on a beaucoup d'émotions, on vit tout très très fort. Donc je pense que irrémédiablement je finirai par revenir au young adult à un moment ou à un autre, mais je m'impose pas, je me dis pas je vais écrire un roman adulte ou un roman jeunesse. C'est juste l'histoire qui fait que bah il va être plus dans cette catégorie plutôt que l'autre. Donc oui, je pense que je reviendrai à un moment ou à un autre, mais là je peux pas dire quand, je sais pas.
Ce sera la surprise, comme pour le roman historique. Dis-moi, j'arrive à la dernière question, qui est une question un peu signature que je pose à tout le monde, même si je l'adapte à chaque fois. Et là, notamment pour avoir lu Le syndrome du spaghetti, c'est une question qui m'a frappée et que je voulais vraiment te poser. Et en plus, par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, comme quoi toi, tu restais avec tes personnages pendant très longtemps, même après l'avoir fini de l'écrire, et que c'est pour ça que d'ailleurs, que tant que les lecteurs s'étaient pas approprié le livre, t'avais du mal à les quitter. Si tu devais donner 3 conseils à un auteur ou une autrice pour écrire des personnages saisissants, que serait-il ?
Pour écrire des personnages saisissants, et bah de les... Je pourrais dire vraiment beaucoup de choses, mais essayer de s'inspirer de la réalité, des vrais gens. C'est-à-dire d'observer les vrais gens, entre guillemets, et de regarder qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qui les définit, qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qui font qu'ils ont cette personnalité qui est unique, parce que chaque personne évidemment est unique. Qu'est-ce qui fait qu'on les aime finalement malgré leurs défauts? Malgré, parfois, il y a plein de gens qu'on aime et nous agacent quand même. Et c'est ça qui est intéressant. Et à l'inverse, il y a des gens, on n'est pas attiré par eux alors qu'ils ont rien de, ils nous agressent pas particulièrement. Et donc c'est ça. Qu'est-ce qui fait que chaque personne est unique? C'est quoi qui fait la complexité finalement de sa personnalité? Essayer de s'inspirer vraiment des gens vrais, parce que sinon on peut très vite tomber dans les clichés finalement. Faut comprendre qu'on a l'habitude de voir des personnages, notamment parce qu'on est beaucoup aujourd'hui confrontés à tout ce qui est séries, cinéma, etc. Et que selon la qualité de ce qu'on regarde, il y a des archétypes de personnages qui reviennent tout le temps. Et en tant qu'écrivain qui commence à écrire très naturellement, bah, ce qui va venir, c'est ces archétypes de personnages. J'en parle dans mon podcast, mais par exemple, ça va être si vous écrivez un polar, le policier ronchon, voilà, qui est divorcé, qui est un peu taciturne, mais qui a un grand cœur en dessous, tous ces trucs qu'on a l'habitude de voir, ou dans la comédie romantique, la jeune fille rigolote, mais un peu tête en l'air. Voilà, il y a des choses qui reviennent tout le temps, et ça, faut essayer de faire un pas de côté par rapport à ça si on veut créer des personnages qui sont, t'as utilisé le mot saisissant, et ça, c'est intéressant parce que en fait parfois on se trompe, on pense que ce qui est important c'est qu'on aime un personnage, et c'est pas le cas. Il y a des personnages qu'on n'aime pas du tout et qui nous fascinent. Donc oui, c'est un personnage saisissant, fascinant. C'est à ça qu'il faut tendre. Et ça veut dire il faut faire attention aux archétypes. Il faut se poser la question. S'il y a une question qui est importante, c'est quelles sont les valeurs des personnages. Parce que pour moi, ce qui définit beaucoup qui sont les gens là dans la vraie vie, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme valeur, qu'est-ce qui est important pour eux. Et il y a des gens qui sont obsédés par leur travail, des gens qui tueraient pour leur famille, qui mourraient pour leur famille. Les gens n'ont pas les mêmes valeurs, ils voient pas le monde de la même façon. Et c'est ça qu'il faut essayer de transcrire dans les personnages. Mais bon, je pourrais parler 3 heures des personnages, parce qu'après, il y a ce que vous savez sur les personnages en tant qu'écrivain. Et il y a comment on les fait comprendre au lecteur sans faire 4 pages de description et toute sa biographie. Moi, je sais par exemple que je connais toujours l'enfance de mes personnages, justement parce que j'ai ce truc et que je pense qu'on est quand même très déterminé par son enfance. Et même si on peut choisir de faire différemment, mais il y a quand même des choses qui sont très ancrées de l'enfance. Et donc moi, je connais toujours l'enfance de mes personnages, mais ça ne veut pas dire que mon lecteur la connaît. Pas parce que je l'ai écrite un jour dans mon coin que je vais le mettre dans le livre. Donc il y a aussi ce choix de dire, bon, moi je sais qui est le personnage, mais comment je fais comprendre au lecteur qui il est sans y aller avec mes gros sabots, de dire voilà, Séraphine est née le 12 janvier 1976, elle est brune, elle fait 1,75 m, elle voilà. En fait, là, le lecteur, il s'en fiche. Le lecteur, il veut rencontrer le personnage il veut se faire une idée du personnage comme il se ferait une idée de quelqu'un qui rencontrait une soirée. Et en réalité, on rencontre quelqu'un, au bout de 3 minutes, on a une opinion sur la personne en face. On a une idée de qui il est à peu près. Et il y a par plein de petits détails. C'est sa façon de parler, c'est ce qu'il dit évidemment, c'est ce qu'on nous a dit sur lui, sa façon de s'habiller, sa façon de se tenir, est-ce qu'il parle beaucoup, est-ce qu'il écoute, est-ce que il y a toutes ces choses qui sont, tout ce qui n'est pas dit finalement, que le lecteur enregistre. Et qui va lui donner une idée du personnage. Et c'est là où il faut être un peu subtil, je dirais.
D'accord. Bah, merci beaucoup. Je pense que ce sont de très bons conseils. Ce serait marrant d'imaginer une romance où c'est un vieux policier grincheux et un thriller où c'est une jeune fille un peu tête en l'air.
Oui, exactement. Voilà, ça c'est une bonne façon d'aborder les choses, de mélanger les genres aussi. Ne pas, parce que le genre, c'est bon, c'est. Il y a des barrières, quoi, et de pas se dire c'est parce que j'écris un polar que je peux pas avoir une héroïne plutôt qu'un héros, et qu'elle doit absolument être dans les codes du polar.
Bah écoute, merci énormément Marie pour tous les conseils que tu as pu donner. à travers cet épisode de podcast. Dans tous les cas, je recommande à tous les jeunes auteurs et autrices aspirants qui souhaiteraient en savoir plus sur tes méthodes d'aller écouter l'entièreté du podcast que tu as tourné en partenariat donc avec Audible et qui est donc uniquement disponible sur Audible. Si vous le cherchez ailleurs, vous ne le trouverez pas pour le coup, et qui est en 10 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, qui est une énorme masterclass en réalité d'écriture. Donc, si vous voulez en savoir plus sur toutes les méthodes de Marie, c'est là. Il me semble que tu n'as plus ta chaîne YouTube Marie-Lé en pyjama, mais on peut te retrouver quand même sur Instagram en tant qu'autrice. Et tu partages quand même des lectures parfois, et au-delà de ça, tu partages ton quotidien d'autrice dessus. Je mettrai tous tes liens dans les notes de l'épisode. Donc, si vous voulez aller en savoir plus et suivre Marie, c'est là-bas. Et bien évidemment, on en a parlé, mais son dernier roman vient de sortir. Donc, si le pitch vous a plu, vous a donné envie d'en savoir plus et de lire le roman, je ne peux que vous le recommander chaudement. Donc voilà, merci énormément Marie d'être prêtée au jeu et d'être venue sur mon épisode.
Non, merci beaucoup.
J'étais vraiment très contente de t'accueillir et j'espère à tous les éditeurs que ça vous a plu.
Bah non, ça m'a fait plaisir.
Ah, tant mieux alors.
C'est très agréable.
Eh bien, j'en suis ravie alors. À tous les auditeurs qui nous écoutent, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.